la pièce de Tony Kushner met en scène le sida, mais à travers le sida, surtout la fin de siècle aux États-Unis. Elle se passe en 85, à l'époque de Reagan, et on y voit au moins deux personnages qui sont atteints du sida. L'un qui est une sorte d'ange, justement, un jeune garçon de 30 ans qui est fauché par la maladie, et puis un monstrueux avocat qui a d'ailleurs véritablement existé, qui s'appelle Roy Cohn, qui lui aussi est fauché par le sida. C'est un personnage réel dont pas mal de gens se souviennent, puisqu'il a été le bras droit de McCarthy, et il a pas peu contribué à faire exécuter les Rosenberg, donc à l'époque du procès en 53. Il a continué sa carrière d'avocat, qui était un avocat formidablement corrompu, mais ami de Reagan, ami d'Andy Warhol, faisant des fêtes absolument extraordinaires à New York. C'est une sorte de grande figure du mal que Tony Kushner a intégré dans sa fiction et à qui il fait jouer une sorte de rôle comme de trou noir autour duquel toutes sortes de personnages dans la pièce circulent. On y voit des juifs, on y voit des noirs, on y voit des mormons, on y voit une femme accrochée au Valium. On suit une sorte d'épopée et de feuilleton aussi. Il y a une sorte de dimension épique.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Au Festival d'Avignon en 1994, Brigitte Jacques avait créé l'événement en montant Angels in America, une pièce de l'américain Tony Kushner. Juif, gay et marxiste, comme il se présentait lui-même, écrite durant l'hécatombe des premières années de l'épidémie de sida. Pièce fleuve, puisque son intégrale représente 7 heures de spectacle, elle met en scène des histoires d'amour empêchées entre hommes, en un temps où l'homosexualité est considérée comme une maladie et un péché mortel. Mais elle parle aussi beaucoup de politique et de la place de l'Amérique dans le monde, de croyances et de religions, de rêves, de trahison et de rédemption. Après sa magistrale mise en scène de Père de Strindberg à la Comédie Française en 2015, et alors que son dernier film Roubaix, une lumière est encore en salle et nommé au César, Arnaud Desplechin réinvestit la salle Richelieu avec ses anges dans une version resserrée de 2h30 à voir jusqu'au 27 mars. 8 comédiens exceptionnels y tiennent 23 rôles. La grande Dominique Blanc en endossant 6 à elle seule et à chaque fois on se régale. Enfin, face d'elle, Michel Villermoz, formidable, incarne Roy Cohn, juif antisémite et homosexuel homophobe, avocat véreux, adjoint de McCarthy, ami des Reagan et mentor du jeune Donald Trump. C'est drôle et amer, désespéré, et on en sort pourtant revigoré. C'est du vrai théâtre. Bonsoir Arnaud Desplechin.
Bonsoir.
Alors quand on va voir Roubaix, une lumière, qui est en salle, qui est un film extraordinaire, et qu'ensuite on va voir Angels in America, on se demande si c'est le même metteur en scène. Vous avez une capacité à faire le grand écart entre les univers qui vous passionnent, c'est assez fascinant. Quel est le lien, s'il y en a un, entre ces deux mises en scène?
J'arrive pas bien à voir le lien. Il y a un lien très très ténu, qui a un fil sur lequel je me tiens, c'est que Roubaix une lumière tourne peu à peu, et le portrait d'une ville, comme le titre l'indique, et peu à peu, la caméra devient un microscope et explore deux personnages féminins qui sont un couple lesbien. Et m'importait énormément dans les Angels in America le fait de représenter des amours homosexuels entre hommes et de les montrer avec beauté, avec tendresse, avec érotisme, d'arriver à montrer des amours singulières et d'arriver à toucher n'importe qui avec ça. Alors vous voyez peut-être le point commun pour moi, enfin c'est à peine un point commun, c'est cette attention à des amours singulières et pas à des amours universels.
Est-ce qu'il y a aussi un regard politique sur des sociétés? Parce que travers justement la façon dont ces couples dits anormaux, notamment aux États-Unis, sont regardés, comment ils s'insèrent aussi dans la politique?
Mais c'est deux mondes un peu dévasté. On voit des gens qui, alors dans Roubaix une lumière, c'est dans des conditions sociales, c'est deux femmes qui sont accusées de meurtre. Sarah Forestier, elle est assez douce. c'est un tel dénuement que vous reconnaissez deux sœurs. Et là, j'entendais dans la présentation le personnage qui est joué par Clément Hervieux-Léger de Prior, qui est atteint par la maladie. Il fait pas l'expérience du dénuement matériel, mais il fait l'expérience du dénuement devant la maladie et la mort. Et à 31 ans, le voilà atteint du sida, voilà qui découvre le sarcome de Kaposi sur sa peau, qui se dit « je vais mourir trop jeune ». Et c'est la fin d'un monde, vous disiez, c'est des mondes qui s'effondrent. Roubaix s'effondre et pourtant le commissaire Daoud le maintient à la ville, maintient ce qu'il peut de rapport humain, de lien, d'humanité. Et sur les Angels, qui est une pièce qui est hantée par la maladie de ces jeunes hommes, ou plus vieux, puisque Roy Cohn est aussi mourant, qui est hantée par la maladie, et pourtant une pièce très très joyeuse. J'aime entendre aller là-bas, entendre les spectateurs rire. Et c'est une pièce qui est pour la vie. Et le dernier, je sais qu'à chaque fois, ma gorge se serre quand j'entends le dernier monologue de Prior, que Clément arrive et joue sur la corde. Il tend toute la corde en lui comme un violoniste. Et c'est entre les larmes et c'est une réconciliation, ça répare. Vous voyez, ce sont des mots qui réparent. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce point commun là entre Daoud qui s'est réparé quelque chose chez ces deux femmes et la pièce des Angels qui elle-même répare tout quelque chose en nous si on pense à tous ces morts que nous avons connus.
Est-ce qu'on peut dire aussi, Arnaud Desplechin, qu'il y a cette force de vie qui naît au milieu des ruines, parce que de même que Angels et Roubaix, il y a une sorte de mort, d'abandon du reste de la société. À Roubaix, c'est l'extrême dénuement, la pauvreté, l'absence de lien avec le reste de la société. Finalement, Angels in America, comme dans le film de Robin Campillo, il y a ce moment où il faut que la vie naisse de la mort pour qu'on prenne en charge, pour que l'ensemble de la société prenne en charge cette maladie dont personne ne voulait s'occuper. C'était le sida des gays, ça ne correspondait à rien de curable.
Oui, la pièce était visionnaire parce qu'elle décrit... Le texte de Kushner décrit les années Reagan, mais qui sont tellement comparables aux années Trump que c'en est rigolo, quoi. C'est sidérant. C'est pas vraiment un bégaiement parce que c'est pas exactement les mêmes enjeux qui jouent. Puis le monde change. Mais la pièce est vraiment visionnaire en sens que aujourd'hui on voit dans tous les mouvements de contestation et c'est cette idée que les malades ont droit à la parole aussi, qu'il n'y a pas que la parole savante ou la parole experte qui peut dire la vérité, que dans une société, si on veut faire société, il faut que toute parole soit entendue. La parole des coupables, je pense, dans Roubaix une lumière, la parole des malades ou la parole des victimes dans Angels in America, et que cette parole doit être entendue à égalité avec la parole des médecins. Je pense aux médecins qui jouent aussi par Dominique Blanc, et dans une scène de confrontation avec Michel Villermoz. Et voilà, il faut que les... Et c'est ça qu'on voit magnifiquement dans 120 battements par minute. C'est comment, à travers tout ce mouvement de contestation et de réappropriation de leur corps par les malades, alors que la médecine voulait les déposséder, en faire des cobayes. Et voilà qu'ils se réapproprient leur vie à travers la maladie, cette menace de la mort qui plane tout le temps, et ils arrivent à se réapproprier leur vie. Alors du coup, la pièce, elle est pour la vie, quoi. Alors que le Strindberg, père, courait vers la mort, j'avais un appétit morbide terrible, et là, on avait un appétit de vie avec les 8 acteurs formidables.
Alors c'est vrai que lorsqu'on voit que cette pièce de Tony Kushner a été écrite en plein cœur des années SIDA, 85, 86, 87, Arnaud Desplechin, on peut se demander si au fond, elle n'était pas déjà datée, parce que c'est quelque chose qu'on maintenant on connaît, il y a des traitements, on est passé à autre chose, Reagan est mort, c'est Trump, et finalement quand on entend certaines tirades, on se dit qu'entre l'Amérique de Reagan et celle de Trump, il y a quand même des passerelles assez fortes.
Je pense que le monde est en train de changer.
Mais je ne veux pas.
Non, attends, il change en bien. L'Amérique est en train de redécouvrir son rôle dominant sur toutes les nations, et les gens commencent à ne plus avoir honte, comme ils en avaient pris l'habitude, mais c'est énorme. La vérité se rétablit. Voilà le résultat du travail du président Reagan. Harper, il a dit, voilà la vérité, proclamons-la fièrement et d'une seule voix. Tout le pays lui répond, nous devenons meilleurs. J'ai besoin de m'y faire une place. J'ai besoin de quelque chose de grand qui me tire vers le haut. Depuis 6 ans, le monde semblait décliné, horrible, sans espoir.
Mais je ne lui trouve rien de changé. Ce serait même pire. Il paraît que la couche d'ozone...
Harper, j'essaie vraiment de t'expliquer.
Mais moi aussi, je t'explique que le monde semble comme si...
Oui, mais il te semble comme ça, Harper, parce que tu ne sors jamais de chez toi et que tu as des problèmes psychologiques.
Mais si, je sors de chez moi.
Mais non, tu sors pas de chez toi. Tu restes ici, enfermé toute la journée à fantasmer sur toi-même.
Et toi, où est-ce que tu vas, hein? Quand tu te promènes. Et je n'ai aucun problème psychologique.
Arnaud Desplechin, c'est une scène entre Christophe Montenez qui incarne Joe Pitt et Jennifer Decker, sa femme Harper. C'est un couple hétérosexuel en apparence. Ils sont mormons. Lui est un adepte des Reaganomics. Il pense que l'Amérique va reprendre enfin son rôle. Sauf qu'il est quand même travaillé par son homosexualité qu'il ne peut pas reconnaître. Elle est accro aux médicaments. Bon, finalement, on se dit, rien ne change. Le discours est le même. L'Amérique redevient grande à nouveau.
Oui, c'est...
Est-ce que, justement, c'est une pièce très très longue, vous l'avez réduite. Est-ce que vous avez pris plaisir, justement, à conserver dans les dialogues politiques ce qui, justement, nous ramène à la vie d'aujourd'hui, à l'Amérique d'aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr. Prenant cette pièce fleuve, la condensant comme ça, j'avais l'impression que de mieux voir le sentiment et de pouvoir enlever les scories du temps. Ce qui pouvait être passé de mode ou ce qui pouvait, etc., de se concentrer dessus. Et en même temps, dans l'attention, j'entends ces voix que j'aime tellement de Christophe et de Jennifer qui jouent ce couple et de ne pas les juger. Vous voyez, vous évoquiez les années Trump que nous traversons, c'est de ne pas juger les gens qui votent Trump. C'est-à-dire que ce couple mormon un peu naïf, en fait, ce sont nos narrateurs. Vous voyez, c'est eux. Alors, c'est pas glorieux parce qu'ils sont un peu réac, un peu naïfs, etc. Mais ils me faisaient penser. Je pensais toujours en regardant Christophe jouer à Gary Cooper jeune. Vous voyez, ce jeune républicain, il a cette phrase merveilleuse dans le monologue qu'on entendait. Il disait :« Les gens cessent d'avoir honte. » Et vous voyez, c'est magnifique. Alors c'est très curieux d'entendre cette voix républicaine qui dit :« Ce qu'il faut pas, c'est avoir honte. » Et lui-même va découvrir son homosexualité et n'en aura pas honte. Et ça, c'est magnifique, vous voyez, ce courage qu'il a de se regarder. Alors, c'est un personnage qui est très loin de moi, politiquement, et pourtant, il a cette naïveté des héros américains, et c'est ce courage de rejeter la honte, comme ça. Et alors, tout d'un coup, il va découvrir un monde, un continent, il va découvrir l'amour, dans les bras de Jérémy Lopez, qui joue le rôle de Louis. Et voilà, il se découvre lui-même, et il est à la conquête de lui-même. Mais alors, pas du tout de la même façon que les autres personnages qui ressemblent, Jérémy Lopez est un personnage qui ressemble plus à Kushner dans la vraie vie, mais c'était le fait de pas juger ce personnage républicain, c'était pour moi, crucial pendant l'adaptation et au tout début de la distribution. Vraiment et Christophe Montenez, qui est un si grand acteur de théâtre, avait cette capacité-là de montrer ce qu'il peut y avoir de beau dans un personnage qui a priori pourrait être rebutant dans d'autres mises en scène, mais de montrer cette enfance, cette naïveté comme ça qui est magnifique chez lui.
Mais il faut dire, Arnaud Desplechin, c'est que vous avez une veine formidable, c'est que quand on fréquente depuis longtemps la Comédie Française, on se rend compte que cette troupe-là, en ce moment, n'a jamais été aussi exceptionnelle. Là, vous avez 8 acteurs qui jouent 23 rôles, mais ils sont tous inouïs.
Tous et chacun.
Ce sont des Stradivarius, ces gens-là. Oui, c'est fou, hein.
Oui, c'est vraiment La troupe est arrivée à un degré d'excellence et une collection de singularités aussi, chacun avec des trajets très différents.
Dès le début, vous avez pensé à ceux qui sont là pour les rôles. Vous les avez vus déjà
en restructurant
la pièce.
C'est cocasse parce que voyez-vous, c'est quelque chose. Je l'ai souvent dit que je m'interdis de faire quand je travaille sur un film. C'est je travaille pour des personnages, voyez, mais je ne pense jamais aux acteurs.
Jamais.
Je ne peux pas m'empêcher. Je le cache. Je suis tellement superstitieux que j'arrive à le cacher dans mon cerveau, tout à l'arrière. Vous voyez, je m'autorise jamais à dire un nom d'acteur. Parce que je suis superstitieux. Je me dis, si je dis le nom, l'acteur ou l'actrice va me dire non, ça ne se fera pas, etc.
Quand même, quand on revoit Mathieu Amalric dans vos films...
Eh ben non, c'est jamais pour...
On a l'impression que c'est les mots aussi, quand même. Les mots sont ceux de Mathieu, ils sont dans sa bouche, quoi.
Ben oui, mais non. Non, c'est à chaque fois, c'est une partie qu'on rejoue, Mathieu et moi, qu'on recommence à zéro, et on se dit, voilà, est-ce qu'on saura inventer quelque chose de nouveau? Mais là, je me souviens, quand j'écrivais cette adaptation... j'entendais la voix de Jennifer Decker, je me disais, si Montaigne me dit non, ça va pas le faire. Je pensais aux yeux ronds de Jérémy Lopez et à son enfance. J'avais un très grand désir de jouer avec, je parle du quatuor amoureux, de jouer, une grande curiosité de découvrir Gaël Camilindi. Comme je suis un grand admirateur des mises en scène de Clément Hervieux-Léger et que je l'avais adoré dans les damnés, etc. Et genre, je le croisais parfois sur pair à la cantine du Français. Il est très impressionnant, c'est un homme de grande autorité. Je me suis dit, est-ce qu'il voudrait bien jouer avec moi? J'écrivais pour ces acteurs, quoi. Alors ça m'a porté dans
l'adaptation. On a l'impression que vous avez toujours un coffre à jouets devant vous, Arnaud Desplechin, quand vous parlez des acteurs, c'est bien. Alors, on va revenir à cette pièce quand même. Tony Kushner, il écrit, alors c'est un traducteur de Corneille, ce qui est pas anodin, parce qu'il aime bien aussi notamment l'illusion comique, et c'est une pièce étrange, parce que les anges, ils sont là, et c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors la Comédie française nous permet de faire voler des anges, vous permet de faire voler les anges. On va écouter Florence Viala.
Je te salue, prophète, de grande œuvre commence. Le messager est arrivé.
Allez-vous-en!
Je suis l'ange de l'Amérique, le grand oiseau à tête blanche, principauté continentale.
Non, je suis désigné pour rien du tout, j'ai des tas de choses à faire.
Prophète de l'Amérique, tu deviens ce soir. Œil américain, ta vision transperce la nuit. Cœur américain, tu t'enflammes pour la vérité. Tu es le chantre suprême, celui qui sait. Tu parles la langue du monde. Tu es l'esprit qui voit.
Oh, je crève de peur. Sortez de ma chambre, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît.
Ouvre-moi, prophète. Je suis le livre.
Attendez, comment se fait-il que j'ai cette érection? C'est très dur de se concentrer.
Le raidissement de ton pénis est très secondaire.
Pas pour vous peut-être, mais je...
Tu es la chair stupide. Je suis la chair qui énonce.
Un moment, s'il vous plaît. Un petit moment, un tout petit moment, d'accord?
Voilà, Arnaud Desplechin, on vient d'entendre donc la voix de Florence Viala qui joue le l'ange de l'Amérique et celle de Clément Hervieux-Léger qui joue Pryor. Donc ce jeune homme de 30 ans en train de mourir du sida qui devient le prophète qui doit expliquer au monde ce qui est en train de se passer. C'est quand même très surprenant dans une pièce qui traite de sujets aussi graves de voir tout d'un coup cette espèce de bouffée de théâtre de très tôt, quoi, avec des anges qui arrivent avec des ailes, vraiment.
Il y a un appétit de Broadway chez Kushner, il y a un appétit de cinéma, il y a un appétit de série télé, il y a un appétit d'impureté, et je vois, et là c'est un écrivain savant, il y a beaucoup de références savantes. Vous parlez de Corneille, de l'illusion comique, je pensais dans un texte de François Regnault, il décrivait comme ça la caverne de l'illusion comique, et c'est ce centre mormon où on voit des poupées de cire qui se remettent dans lequel on rejoue la pièce à l'intérieur de ce diorama. Et donc c'est très savant, et pourtant il y a un côté populaire. Il y a un côté populaire, et je peux pas m'empêcher de rêver à Tony Kushner en me disant, voilà, c'est aussi un gosse de 12 ans, un jeune New-Yorkais qui se dit, alors je suis plutôt bon à l'école, j'ai plutôt une plume et tout ça, je vais faire concurrence au cinéma. Et ce qui est magnifique, c'est que la vie lui aura donné ça, puisqu'il est devenu le scénariste de Spielberg sur les films les plus engagés politiquement de Spielberg, sur Lincoln, le prochain West Side Story, ou sur Munich. C'était Kushner qui écrivait, qui signait les scénarios. Et alors il y a ce désir de dire, ah oui, le cinéma il peut tout faire, ben nous aussi on peut tout faire, on peut tout représenter. Et alors cet ange, il est très drôle, parce que c'est Florence Viala qui le joue, et c'est un ange effroyablement réactionnaire. Alors à chaque fois aussi, tous les soirs, c'est drôle, parce que tout d'un coup, elle se met à parler, et puis alors, Florence, elle a la beauté qu'on lui connaît, la cocasserie aussi, parce que c'est un ange trivial, quoi, c'est un ange qui a les pieds sur la terre. Et voilà qu'elle se met à tenir des propos effroyablement réactionnaire. Et alors, les spectateurs au début savent pas comment réagir. Est-ce qu'il faut le prendre comme ceci ou comme cela? Ça provoque le rire et c'est bizarre. Et à un moment, il y a un moment très émouvant qui est théorisé par Dominique Blanc quand elle dit, un ange, c'est juste une croyance avec des bras et des ailes pour vous porter. Voilà. C'est juste ça. Et il y a aussi un moment aussi qui m'émeut beaucoup. cette métaphore des anges, cette métaphore littéraire, on ne sait pas bien ce que ça signifie, une métaphore, c'est ça qui est magnifique, mais elle est effective, elle fait fonctionner la pièce, elle nous donne ce merveilleux théâtral auquel Kouchner aspire, mais aussi elle donne une perspective politique dans l'idée de prophétie. C'est quand Clément Hervieux-Léger dit « Peut-être que nous sommes tous prophètes, nous ceux qui sommes malades et qui allons mourir, et ça, qu'on est tous devenus un peuple de prophètes. » Et cette idée que les déshérités, que les humiliés, les offensés soient les prophètes de la société, que les malades soient devenus les prophètes, pas les médecins, les malades. Ce sont eux nos prophètes. C'est eux dont il faut écouter la voix. Et étrangement, eh ben, ils disent la vérité. Eh ben, ça, c'est tout simplement dans Hegel. Hein. C'est le, vous voyez, c'est l'esclave qui dit la vérité au maître. C'est lui qui fait avancer la société. Et alors, cette fonction de la prophétie, comme ça, elle vient renouveler une lecture de Hegel avec une poésie qui est tellement efficace, quoi, qui est tellement... Et effectivement, Pryor va devenir le prophète des humiliés, des offensés, des malades, quoi.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez eu des visions?
Des visions? Je ne suis pas au point d'avoir besoin de compassion ou de mensonge.
Mais je n'éprouve aucune compassion. C'est un sentiment que je ne connais pas. Il y a 170 ans, autrement dit hier, un ange envoyé par Dieu est apparu à Joseph Smith, dans le nord de l'État de New York, tout près d'ici. Les visions, c'est une réalité.
C'est absurde, hein?
Mais ce n'est pas très poli de traiter d'absurde les croyances d'autrui. Il avait un tel désir de comprendre notre prophète, et son désir est devenu prière, et sa prière a suscité un ange. Et cet ange était réel, je le crois.
Dans la Bible, est-ce qu'il leur arrive aux prophètes de refuser leur vision?
Oh oui, il y a eu des précédents dans les Écritures.
Et Dieu les sanctionne comment s'ils font ça?
Eh bien, il les donne à manger au balai.
Voilà, petit dialogue entre Dominique Blanc et Clément Hervieux-Léger. Dominique Blanc qui incarne ici la mère mormone de Joe Pitt.
Anna Pitt.
Voilà, qu'on a entendu au début. Clément Hervieux-Léger étant prior, ce jeune prophète qui a des visions. Voilà, il y a, quand Dominique Blanc incarne, on le disait tout à l'heure, six personnages, dont cette mère mormone, et aussi le fantôme d'Ethel Rosenberg. Parce que dans la pièce de Tony Kushner, Angels in America, que vous avez mis en scène à la Comédie Française, il y a un personnage tout à fait réel, qui est ce personnage de Roy Cohn, qui est un avocat. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas lu avant le propos de la pièce, et qui découvrent, ils se disent c'est un personnage de théâtre formidable, sauf que c'est un personnage réel, et qu'il fait le lien, justement, entre cette période de l'après-guerre McCarthyiste aux États-Unis et Donald Trump. Cet homme a été le mauvais génie de l'Amérique républicaine.
Oui, c'est très vertigineux. C'est très certainement à la naissance de mon désir de voir, moi qui avais tant admiré la mise en scène de Brigitte Jacques, de revisiter le texte aujourd'hui. C'était l'élection de Trump. Il y avait autre chose qui était un... On parlait comme ça un jour avec Michel Villarmouz, qui est un ami, et c'est quand même, ça me plairait de jouer Richard III un jour. Et je disais, mais Richard III, je ne saurais pas le mettre en scène, parce que vous voyez, il faut une vie de théâtre pour monter Shakespeare, alors ça, je serais bien trop impressionné. Et puis, quand Trump a été élu, je songeais à ce type qui avait été, comme ça, fait condamner à la chaise électrique les époux Rosenberg, et qui, lors du premier procès, vous savez, quand Trump a hérité des immeubles de son père, il a décidé de ne pas les louer aux Afro-Américains. Et il a pris un avocat, c'était Roy Cohn, et Roy Cohn a dit, il faut pas du tout attendre, il faut attaquer la mairie de New York. Ils ont attaqué la mairie de New York en disant, liberté d'entreprendre, donc on a le droit de louer à qui on veut, donc nous ne voulons plus louer à aucun Afro-Américain, sinon vous prenez sur nos libertés de citoyens américains, etc. Heureusement, ils ont perdu le procès, et dans cette aventure, et Roy Cohn avait terminé en disant à Trump, mon petit, tu as un avenir politique. Alors c'est un méchant, c'est ça, et ça c'est l'art de Kushner, c'est que de cette figure historique, il la transforme en monstre de théâtre. C'est-à-dire que c'est horriblement délicieux de voir à quel point il est méchant, comme c'est magnifique de voir maintenant que l'hiver de notre déplaisir dans Shakespeare, etc., de voir Michel s'empare du rôle totalement. Il est extrêmement drôle et il est tout le temps dans la transgression. C'est quelqu'un qui transgresse tout le temps, il transgresse toute morale, tout. Alors du coup, vous avez un plaisir enfantin, effrayé, et en même temps jouissif de le voir, puisque comme il ne respecte aucune loi, qui transgresse, qu'il est corrompu, véreux, méchant, raciste, qui va dans tous les sens, etc., il provoque le rire l'étonnement, quoi, l'effroi aussi, tout ça, le sentiment mêlé, sans quoi ça fait un personnage de théâtre plus grand que la vie. Donc c'est parfait, c'est pas pour les scènes, pour la scène, c'est parfait.
Plus grand que la vie, c'est parfait. Roy Cohn, c'est un personnage de théâtre formidable, parce que effectivement, bon, il a été avocat, il a été procureur adjoint au moment du procès des Rosenberg. Il a fait pression sur le juge pour qu'Ethel Rosenberg n'échappe pas à la chaise électrique, alors que les témoignages étaient quand même assez fluctuants sur Ethel Rosenberg. Et en plus, c'est un juif antisémite et un homosexuel homophobe.
Oui.
Donc on se dit quand même un personnage aussi qui cultive autant les contradictions.
Oui, et d'un racisme féroce contre les Afro-Américains. Et oui, c'est un monstre. Il transgresse de partout. Il n'a pas de limite. C'est en quoi c'est un monument de théâtre, quoi. C'est il y a que au théâtre qu'on peut voir toutes ces contradictions qui sont résumées comme ça et qui explosent. Je me souviens plus Vous savez, il y avait ce patchwork comme ça qui a été tissé, de ces bouts de tissu qui ont été tissés en mémorial pour les victimes du sida aux États-Unis. Je crois qu'il est à Washington. Et ils ont gardé un peu dans ce patchwork un petit carré pour Roy Cohn avec une mention de son infamie, mais qui quand même, il fait partie des victimes, vous voyez. Et son infamie est écrite comme ça, a été brodée par les gens qui ont assemblé ce patchwork. Mais il est là, il fait partie du tableau. Et je vois bien le plaisir d'enfant qu'on peut avoir d'avoir un loup comme ça. Je pense à Michel Vermouth, que j'avais vu jouer le loup dans Marcel Aimé, vous voyez, au studio théâtre. Évidemment, il adorait faire peur aux enfants, vous voyez, parce qu'il a cette dégaine, cette allure, ce visage fort, etc. Alors oui, c'est la transgression.
Et alors, le face-à-face, Viermoz, Dominique Blanc elle dans Le fantôme d'Ethel Rosenberg, lui dans ce Roy Cohn qui ne se repent absolument pas. Et il y a aussi un autre face-à-face des deux lorsque Roy Cohn apprend qu'il a bel et bien le sida. Et c'est son médecin, Harry, interprété par Dominique Blanc, qui le lui apprend et qui n'y peut mais.
Du pouvoir, j'en ai beaucoup. Je peux décrocher ce téléphone, faire une quinzaine de numéros, et tu sais qui finira par répondre dans même pas 5 minutes?
Le président!
Mieux que ça, Henri! Sa femme!
Tu m'impressionneras toujours!
Oh, je cherche pas à t'impressionner, je veux que tu comprennes. Je fais l'amour avec des hommes. Mais ce qui serait vrai pour n'importe qui ne l'est pas pour moi. Moi, ce qui me distingue des autres, c'est que l'homme que je baise, je l'emmène à la Maison Blanche et le président Reagan nous fait un beau sourire et nous serre la main. Parce que ce que je suis est entièrement contenu par qui je suis. Roy Cohn n'est pas un homosexuel. Roy Cohn est un hétérosexuel qui s'éclate avec des mecs.
Très bien.
Quel est donc ton diagnostic, Henri?
Tu as le sida.
Non, Henri! Le sida est réservé aux homosexuels. J'ai un cancer du foie.
Arnaud Desplechin, vous connaissez les répliques par cœur, vous êtes en train de les marmonner. Le plaisir, justement, je disais tout à l'heure, comme un coffre à jouets, mais il y a aussi ce plaisir que vous offre la Comédie Française. 44 changements de décor, quand même, les anges qui volent, les trappes, les personnages qui sont interprétés par les mêmes comédiens, grimés formidablement, des montages de split screen, enfin, vous êtes éclaté.
Ah oui, on s'est assez amusé. Vous disiez pièce fleuve, c'est aussi une pièce monde. C'est-à-dire c'est Kouchner, donc à la fin des années 80, prend le monde tel qu'il le voit. Vous avez l'Antarctique, vous avez l'URSS, vous avez avec de Gorbatchev, vous avez tout ça, et il met tout ça en fatras, un fatras organisé avec grand art sur la scène. Alors du coup, on s'était dit avec Rudy Sabungi, Kouchner a ce désir de que tout soit représenté. Bon, on va tout représenter. Alors parfois c'est représenté de manière très simple, très minimale. Vous avez juste un rideau, une table, et puis alors parfois c'est un peu plus savant, avec des projections de vues qu'on a filmées à New York et qui sont montrées.
Très beau, oui.
Et des fois
New
vous
York
avez
la
des
nuit, Central Park,
voilà, ouais. De Central Park ou des sous les ponts quand Louis abandonne son appartement et qui vit avec Joe, etc. Et des fois c'est split screen et c'est tous ces effet de cinéma que j'ai pas inventé, mais ça m'a plu évidemment de me dire mais comment représenter ça, qui sont des effets de cinéma. Le split screen, c'est pour les spectateurs qui les auditeurs qui savent pas, le split screen c'est quand vous avez la moitié de l'écran il se passe une action et dans l'autre moitié il se passe une autre action.
Avec le jeu des lumières, on a deux scènes.
Vous suivez tantôt un couple, tantôt l'autre, et puis ça passe d'un tableau à l'autre, etc. Alors de représenter ça, vous avez des flashbacks, ce qui est assez rare au théâtre, puisque voilà que Pryor se souvient, il dit mais si, l'ange m'était apparu dans la première pièce, le millénium approche, etc. Et alors Bélise... Oui, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et l'ange réapparaît, vous avez le flashback de la pièce précédente et tout ça. Donc vous avez des tas de, vous avez vraiment une compétition avec le cinéma. Qu'est-ce qui sera plus fort? Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. C'est quoi le plus fort? C'est le théâtre ou c'est le cinéma? Et ça, cette compétition avec le cinéma m'enchantait. C'était très amusant à faire.
Oui, mais alors, à force de mettre la barre de plus en plus haut, là, vous pouvez pas aller plus loin.
Alors, il va falloir que je fasse très simple.
Un monologue. Ouais. Peut-être.
Voilà. Mais c'est peut-être le... Oui, j'ai mis une pensée, c'est peut-être... Moi, je suis avant tout un spectateur de texte. c'est les textes qui me font d'acteur, bien sûr, je joue au théâtre pour, et au cinéma pour aller voir des acteurs. Et, mais au théâtre, au cinéma, je vais pour voir des acteurs, voilà. Mais au théâtre, j'y vais pour entendre des textes dits par des acteurs. Et vous voyez, si je devais décrire un spectacle qui m'aura marqué à vie, c'était La Terre Vaine, The Westland, par Deborah Warner, joué par Fiona Shaw. Et il y avait Fiona Shaw seule, je crois qu'il y avait un tabouret. Y avait-il un micro? Je crois qu'il n'y avait pas de micro. Et elle jouait, alors j'avais révisé le texte, c'était en anglais, il n'y avait pas de surtitres, vous voyez, donc j'avais révisé le texte, que je connaissais un petit peu quand même. Et voilà, j'étais transporté, il n'y avait plus que ça. Que ça. Et ça me plaît infiniment.
Mais donc, ça veut dire que pour vous, ça y est, le théâtre est rentré dans la besace. Donc, il y a un film, une pièce, un film, une pièce.
Pas encore. Je regarde ça avec très grande humilité, vous savez. Je me dis à chaque fois, j'ai une crise des légitimités que j'avais sur le Strindberg, et je me suis dit, la seule chose qui m'autorise, c'est ma cinéphilie, c'est Bergman. Ça m'autorise à aller parler avec les acteurs. Et là, j'avais la passion de monter cette pièce, ces effets spéciaux, ce côté, ce merveilleux théâtral, à cause de son impureté, de l'impureté de ce texte. Mais vous voyez, je serai jamais un metteur en scène comme, je sais pas, pour prendre deux personnes que j'admire infiniment, Brigitte Jacques, qui a monté Les Angels, ou Clément Hervieux-Léger, dont j'adore tant, je voyais le Goldoni, je pense au Petit Maître Corrigé, à tant d'autres mises en scène, Le Pays Lointain, qui était avec Loïc Corbery, qui était magnifique. Alors alors moi, à chaque fois, il faut que ce soit vraiment, je me dis, bon, là, le cinéma m'a appris assez pour que j'apporte une petite pierre, pour que je puisse aider un tout petit peu les acteurs. Alors, il faut qu'il y ait cette condition-là pour que je m'attelle à une pièce, mais je ne saurais pas dire je suis un homme de théâtre.
Oui, mais à partir du moment où vous aimez un texte de théâtre, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bon, enfin que vous pourriez le faire et pas le faire? J'ai du mal à comprendre, parce qu'à partir du moment où vous avez manié et un Strindberg et Tony Kushner, qu'est-ce qui vous serait interdit? Bon, vous avez dit Shakespeare, laissons Shakespeare en dehors de notre conversation.
Laissons Shakespeare en dehors de tout ça.
mais sinon, le reste.
Ah, il faut que je trouve ce petit détour, parce que ma vie, j'ai toujours pensé. Vous savez, il y a deux mots comme ça qui étaient dit. Je crois que c'était Chabrol qui disait ça. Il disait faire un film, pour apprendre à faire un film, ça prend 4 heures. Je vous apprends, et au bout de 4 heures, vous savez faire un film. Et je crois profondément. Je crois que n'importe qui peut faire un film, que c'est un art populaire, très simple. Si vous n'avez pas des trucs, vous demandez, la script vous aidera, le chef-op sera adorable, il vous dépannera un peu, les acteurs vous aideront, et puis ça va se faire très bien, et ça va aller se passer. Voilà. Mais j'ai le souvenir du premier spectacle de Claude Régis que j'ai vu, c'est avec Jean-Quentin Châtelain, je crois, et je pense à lui, puisqu'il est mort cette année. Et voilà, tout d'un coup, Jean-Quentin Châtelain était en scène. Et j'ai réalisé en voyant ça, que une simple entrée en scène, qui a l'air beaucoup plus rudimentaire qu'une entrée dans le cadre. Vous voyez, l'entrée dans le cadre, une fois de plus, le directeur de la photographie vous dira, bon, on fait comme ça, l'acteur, on va se débrouiller. Mais ça, faut une vie. Faut pas 4 heures, faut une vie pour savoir faire ce que Claude Régis savait faire. Et moi, ma vie a été différente. Ma vie a été cinéma. Donc, je peux pas prétendre que j'ai ce savoir-là de théâtre. Je n'ai pas envie de le prétendre. Croyez-moi, je suis très orgueilleux sur un plateau et de cinéma. Mais alors, sur un plateau de théâtre, la modestie est extrêmement agréable et à habiter pour moi. Vous voyez, j'ai vraiment pas de complexe là-dessus. Donc je me dis, ben voilà, en quoi la vie que j'ai vécue, qui est une vie de cinéma, pourrait aider des acteurs de théâtre, pas à être mieux, mais à ce que vous les voyez un tout petit peu mieux. Voilà, mon travail se limite à ça. Que vous les voyez, vous dites, ah ouais, Dominique Blanc quand même. Ouais, c'est quand même un monument de théâtre. Vous voyez, de Jennifer Decker. Qu'est-ce qu'elle a inventé? Vous voyez, si vous arrivez à vous dire ça, j'ai fait mon travail.
En tout cas, vous avez fait votre travail, parce que les spectateurs de la Comédie Française en redemandent. Donc, Angels in America, c'est aux Français jusqu'au 27 mars avec 8 acteurs formidables. Et puis, il y a aussi À voir toujours en salle. Et ne le ratez pas, s'il vous plaît. Roubaix, une lumière. Merci à vous, Arnaud Desplechin.
Merci à vous, Catherine.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.